Première émission d'Amphi 23 depuis le 23 Quai de Conti. Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, s'adresse plus particulièrement au monde enseignant et étudiant et à vous, futurs bacheliers. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, Amphi 23 inaugure une série d'émissions consacrées aux philosophes et l'Europe autour d'une question : une Europe politique est-elle possible ? Avec nous aujourd'hui, Constance Hubert, journaliste à Canal Académie, interroge Bernard Bourgeois, philosophe, membre de l'Institut, spécialiste de la pensée allemande et auteur notamment de deux ouvrages, parmi beaucoup d'autres, « La raison moderne et le droit politique » aux éditions Vrin et « L'idéalisme allemand » chez le même éditeur. Bernard Bourgeois, vous allez aborder aujourd'hui la pensée française de l'Europe à travers Rousseau notamment. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
La parole est à vous.
Comme vous l'avez dit, Marianne Durand-Lacaze, nous abordons aujourd'hui la pensée française de l'Europe. Alors, pour commencer, Bernard Bourgeois, y a-t-il une opposition, voire une incompatibilité entre ceux qui pensent l'Europe et ceux qui la font ?
Eh bien, écoutez, je vais vous répondre brutalement. Au début, les fondateurs de l'Europe s'étaient donné un objectif, Schuman, Monnet, Adenauer, réconcilier la France et l'Allemagne à travers un certain nombre d'institutions comme la communauté charbon-acier. C'est un objectif intra-européen plus que proprement européen. Mais plus l'Europe s'est construite, plus elle a développé et précisé son institution, moins, si je puis dire, elle s'est pensée. Elle ne s'est pas définie. Elle ne s'est pas donné un objectif. Et plus elle s'élargissait, moins, en quelque sorte, elle avait une conscience précise de ce qu'elle était et de ce qu'elle devait être. Et on a reproché en particulier au projet de constitution tel qu'il a été soumis à l'approbation des parlements ou des peuples, au référendum français, de ne pas donner une idée suffisamment précise et nette de ce qu'était l'Europe et de ce que voulait être l'Europe. Voilà pourquoi ceux qui ont fait l'Europe l'ont pensé de moins en moins, et je dirais qu'inversement, ceux qui ont pensé l'Europe ont été d'abord des penseurs qui n'étaient pas des philosophes au sens technique du terme, mais des publicistes, des journalistes, des écrivains divers, et que plus cette pensée de l'Europe s'est faite une pensée philosophique au sens fort du terme, à travers notamment Kant et Hegel, parmi d'autres, moins elle s'est pensée comme politiquement réalisable, de telle sorte qu'il y avait une antinomie, en effet, entre faire l'Europe et penser l'Europe.
Mais il n'y a pas quand même des relations pour que convergent la philosophie et la politique ?
Bien sûr, bien sûr. Il y a fallu qu'il y ait d'abord une constitution du politique, et la France a été en Europe une des premières nations à se constituer avec force. Elle est devenue même pendant la Révolution celle qu'on appelait en Europe la grande nation. Et il y a eu des écrivains qui s'assignaient un rôle politique, par exemple au XVIIIe siècle, qui ont pensé cette Europe de telle sorte que le XVIIIe siècle a rapproché, dans une certaine mesure, les philosophes et les politiques, des philosophes qui s'assignaient un rôle politique, je pense en particulier à Voltaire, et des politiques, je pense en particulier à Frédéric II, qui se considérait comme politique. Il y a donc une certaine convergence entre la création de l'Europe, ou l'idée d'une Europe à construire politiquement, et puis un essai de penser, proprement dite, de cette Europe.
Et pourtant, on ne peut pas à proprement parler de philosophie de l'Europe. À l'heure actuelle, il existe toujours une philosophie de l'Europe à construire pour être prise en compte par le politique.
Bien sûr, mais l'Europe est un objet qui se caractérise comme n'étant ni une singularité, ni une universalité. C'est une structure qui appartient à ce qu'on appelle les communautés ou les collectifs. Or, la philosophie a été essentiellement une réflexion du penseur sur lui-même et une réflexion à travers laquelle le penseur voulait saisir l'universel. Donc, un singulier, un « je » qui visait l'universel, la pensée, un « je pense ». L'Europe avait ce statut médian d'être ni une singularité, ni une universalité, une collectivité, et c'est pourquoi elle n'a pas fait partie immédiatement des objets sur lesquels la philosophie réfléchissait en quelque sorte naturellement.
Justement, nous en venons à la pensée française de l'Europe, pensée qui est la première à prendre l'Europe comme objet de philosophie. Pouvez-vous nous en faire un panorama ?
Mais écoutez, les Français, en effet, ont été les premiers à penser une Europe, une union des peuples européens, mais en même temps qu'ils élargissaient leur objectif en voulant penser également une union mondiale des peuples. La pensée de l'Europe est la pensée d'un genre humain politiquement réconcilié avec lui-même, a été cette double pensée, elle a été une pensée française. Par exemple, j'évoquerai Pierre Dubois, légiste sous Philippe le Bel, qui envisageait la construction d'une Europe chrétienne, et d'une Europe chrétienne s'assignant un objectif qui était l'objectif d'une croisade, récupérer, c'était le titre de l'ouvrage de Pierre Dubois, la Terre Sainte. Ensuite, au début du XVIIe siècle, Aymeric Crucé élabore un projet de construction d'une Europe, mais d'une Europe qui ne se ferme pas et qui s'étend. Elle mobiliserait cette Europe parmi les responsables, ses responsables suprêmes, les responsables d'entreprise, le pape, mais en second, le grand turc, qui venait même avant l'empereur, le roi de France venant en quatrième position. Et cette Europe était si peu exclusive qu'elle comptait entretenir des relations avec les peuples africains, les peuples asiatiques. Le grand Mogol faisait partie également des correspondants de cette Europe. Il y a eu ensuite un retour à l'idée d'une Europe beaucoup plus restreinte, avec le projet que Sully attribuait à Henri IV, une Europe de 15 États européens excluant, voyez que les problèmes ne sont pas posés aujourd'hui et qu'ils restent en partie les mêmes, excluant la Turquie et la Russie. Ensuite, et ça a été le projet le plus important, ça a été celui de Castel de Saint-Pierre, l'abbé de Saint-Pierre, dans son mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Alors bien sûr, ici, on pensait déjà à la Turquie, on l'excluait de l'Europe, mais on souhaitait, et voyez que c'est une des possibilités qui a été évoquée récemment, on souhaitait que des liens positifs s'établissent entre ce qui aurait été cette Europe sans la Turquie, mais avec les musulmans ou les mahométans, comme on disait à l'époque, et l'Asie. Mais l'abbé de Saint-Pierre estimait que la construction d'une telle Europe exigerait au moins 200 ans. Et c'est sur la réflexion sur cet ouvrage de l'abbé de Saint-Pierre que s'est penché, c'est dans cette réflexion que Rousseau lui-même a écrit, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Rousseau réfléchissant sur le projet de l'abbé de Saint-Pierre d'une fédération européenne.
Oui, alors Rousseau parle d'une fédération européenne ou d'une confédération européenne. Pouvez-vous nous définir
les termes ? Il ne parle à proprement parler ni de l'une ni de l'autre. La pensée de Rousseau est une pensée qui, d'une part, s'appuie sur l'histoire, mais d'autre part, se veut également normative dans cette démarche qui est propre à Rousseau comme à tous les penseurs du XVIIIe siècle, de liens intimes entre l'être et le devoir-être, entre le fait et l'idéal, entre la nécessité historique et la volonté politique. Alors Rousseau donc affirme d'une part l'unité de fait de l'Europe, mais d'autre part considère que cette unité européenne ne peut pas s'intensifier pour constituer un jour une véritable unité politique, sûrement pas une fédération, et s'il s'agit d'une confédération, il faudrait envisager cette confédération comme extrêmement souple et extrêmement lâche.
Mais pourtant Rousseau est pour une constitution. D'ailleurs, est-ce qu'il pense le terme de constitution dans le même sens que l'expression contrat social ?
Écoutez, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais m'attarder quelques instants très brefs sur la pensée historique, factuelle que Rousseau se fait de l'Europe. Tout est donné en Europe pour que celle-ci puisse constituer, semble-t-il, une unité politique. La nature a favorisé l'unité de l'Europe. La variété de l'Europe est une variété qui est toujours en communication avec elle-même. Les fleuves en particulier, si nombreux en Europe, lui permettent géographiquement d'anticiper sa réunion politique ou sa réunion historique future. D'autre part, l'histoire comme la nature a favorisé l'Europe. Elle l'a unifiée, si je puis dire, à trois niveaux de la culture. Au niveau de la religion, avec le christianisme. Au niveau du droit, avec l'héritage romain développé. Et au niveau également de la vie plus concrète, de la science, de la technique et de l'économie, avec cette révolution de la science moderne qui a permis le développement d'une technique moderne et cette évolution qui a été propre à l'Europe. Ce qui fait que, selon Rousseau, il s'est créé en Europe ce qu'il appelle une société réelle qui s'exprime au niveau de la religion, au niveau des mœurs et même au niveau des lois, une société réelle qui est sous-jacente en quelque sorte aux différences politiques et qui semble bien indiquer que tout est prêt par cette heureuse conspiration de la géographie et de l'histoire, de la nature et de la culture, pour que cet ensemble unifiable puisse s'unifier politiquement. Mais c'est ici que Rousseau énonce un verdict qui est négatif. Ce que la nature, ce que la culture ont semblé préparer, à savoir la possibilité d'une Europe politique, Rousseau affirme que c'est là un idéal qui n'est ni réalisable, ni possible, ni souhaitable.
Donc Rousseau apporte un constat désabusé sur une Europe politique. Il dit d'ailleurs dans les considérations sur le gouvernement de Pologne, il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même, quoi qu'on dise, il n'y a que des Européens. Pouvez-vous nous commenter cette citation ?
Il n'y a que des Européens, et j'ajouterai pour Rousseau, c'est ce que cela signifie, il n'y a que des Européens, hélas. Pourquoi ? Pas d'unité politique, selon Rousseau, en ce qui concerne l'Europe. Premièrement, comme il faudrait des agents de cette unification de l'Europe. Ceux qui sont au pouvoir dans la plupart de tous les pays européens, ce sont des monarques, ce sont des princes, ce sont des despotes qui font passer leurs intérêts privés avant, très souvent souvent avant l'intérêt de l'État qu'il représente, et par conséquent, selon Rousseau, on ne peut pas compter sur une volonté européenne commune des princes. Alors, s'en rapporter, recourir, avoir recours au peuple. Mais Rousseau considère que l'intervention des peuples ne pourrait favoriser la construction d'une Europe politique que si, à l'intérieur de ces peuples, au patriotisme national, venait se superposer un patriotisme européen. Mais Rousseau, qui se méfie de la représentation du peuple dans la tâche de la législation qui est fondamentale dans les États, Rousseau, si vous voulez, craint les effets de la dimension d'une communauté politique trop étendue, de telle sorte que la représentation serait nécessaire et qu'une démocratie directe à laquelle il tient ne serait pas possible. Voilà pourquoi il considère que à la citoyenneté nationale ne pourra guère en Europe se superposer une citoyenneté européenne, et c'est pourquoi il considère qu'une unité politique européenne est quelque chose d'impossible. Mais, c'est le sens de l'expression désolée que vous évoquiez, il regrette que la véritable citoyenneté, qui ne peut être que limitée nationale, cette citoyenneté pour des raisons diverses s'est distendue à peu près partout, de telle sorte qu'on n'a plus véritablement un patriotisme national et qu'il n'y a plus que des Européens, mais une Europe sans patriotisme vrai, puisque la citoyenneté vraie, le patriotisme vrai, s'il peut se trouver quelque part, si elle peut se trouver quelque part, ça ne peut être qu'au niveau des nations. Il n'y a donc plus que des Européens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité politique, il n'y a plus de communauté politique.
Juste pour finir très brièvement, pour conclure cette émission, ce constat désabusé est donc représentatif d'une pensée de la France sur l'Europe.
Oui, alors je dirais qu'il ne faut pas s'étonner que la pensée française n'ait pas été, si vous voulez, une pensée véritablement et résolument européenne. La France était une nation ancienne, une nation forte, la plus forte en Europe. La grande nation, comme allait l'appeler, je l'évoquais tout à l'heure, les autres nations européennes. Par conséquent, elle n'avait pas vraiment besoin de l'Europe pour être ce qu'elle voulait être, ce qui fait que le désir d'une Europe s'est plutôt développé ailleurs qu'en France, là où précisément l'existence d'une nation et l'existence d'une Europe unie semblaient être absolument indissociables. Je veux parler de l'Allemagne, de cette Allemagne qui a subi, qui a souffert, de la manière dont les Français, au moment de la Révolution et de l'Empire, ont voulu unifier l'Europe, mais en instaurant partout des républiques semblables à celles qui venaient d'être instituées en France. Les étrangers, les Allemands en particulier, en ont ressenti dégoût pour ce que la France leur apportait, à savoir l'occupation et non pas la République.
Nous n'anticipons pas trop sur la prochaine émission. Donc, je rends la parole à Marianne.
Par votre dialogue, Bernard Bourgeois et Constance Hubert, nous avons vu que l'Europe s'est pensée au XVIIIe siècle avant de se construire. Nous avons vu que tous ces projets étaient particulièrement diversifié, que la question de la Turquie s'était déjà posée bien avant le XXIe siècle et que Rousseau avait surtout pris parti sur la problématique de l'Europe, qu'il avait un verdict, disons, négatif, qu'il pensait, qu'il affirmait que la vraie communauté d'un patriotisme était celle de la nation et que pour aller au-delà, il faudrait un esprit politique européen. Donc l'affirmation comme principe d'une Europe politique, d'un esprit politique européen, est un apport essentiel germanique que nous aborderons dans nos prochaines émissions. Bernard Bourgeois et Constance Hubert, merci pour cet entretien et bonne réflexion à tous.